CO2 mon amour avec Honda Automobile, constructeur de véhicules hybrides essence électrique.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caoué.
Mon amour.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous et bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Renan Maillet à la technique, et assistée de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur sous forme de chlorophylle et de forêt. Robin des Bois peut respirer, la forêt de Sherwood ne sera pas transformée en parking d'hypermarché. Alors je vous explique, nous sommes à l'automne 2008, le Premier ministre Gordon Brown pioche à tour de bras dans les caisses de sa gracieuse majesté pour sauver les banquiers de la City. 2 ans plus tard, les mêmes ont retrouvé leur bonus par million, mais les caisses du royaume sont vides. Or, le nouveau Premier ministre David Cameron n'a pas la réputation d'y aller avec le dos de la tronçonneuse et de la cuillère pour ce qui est des coupes budgétaire. Donc c'est décidé, on mettra aux enchères les forêts de la couronne, parc de loisirs pour ministres privés de vacances au soleil, golf 18 trous ou usine à cure-dents. Partout à la City, on prend déjà les paris sur l'avenir des forêts du royaume. Et bien tout ça, c'était compté sans la réaction du petit peuple en colère. Jusqu'au demi-tour stratégique, comme on dit outre-Manche, effectué cette semaine par la secrétaire à l'environnement, Caroline Spellman, la privatisation des forêts britanniques est annulée. La révolution de l'épicerie n'aura donc pas lieu et les sujets de sa gracieuse majesté pourront continuer de se promener dans les bois pendant que le spéculateur n'y est pas. Alors venez les amis, venez, venez chez moi, je vous accueille à branches ouvertes. Venez cueillir mes histoires, car c'est dans les forêts que germent les graines de livres. On y récolte des chevaliers de la table ronde, des merlins, des vivianes, des ogres dévoreurs, mais néanmoins nécessaires quand les enfants d'aujourd'hui veulent devenir traders. On y récolte aussi des beaux sapins, rois des forêts, que j'aime ta verdure heureux. Et écoutez les amis, moi je fais tout pour vous plaire. Et oui, moi la forêt, je chauffe vos foyers, je charpente vos cottages, je fabrique vos journaux qui parlent de déforestation, je nourris vos imprimantes gourmandes et immatures, je vous donne à châtaigner, à manger, à glander, je retiens la terre, je retiens la nuit, je filtre l'eau de vos caraves, je climatise, je cache les maquisards, j'écris tous les matins les partitions d'oiseaux, j'abrite comme un trésor les derniers peuples isolés, mais jusqu'à quand vais-je résister? Eh oui, je suis un univers à moi toute seule. Chlorophylle, mon amour, ça fait des millions d'années que je carbure à l'énergie solaire. Je suis une spécialiste du zéro déchet. Dans mon ventre, peuplé d'insectes et d'humus, je recycle en silence les feuilles mortes, les bouts de bois et le reste, et sans cesse, je reconstruis la vie. Alors cette année, moi la forêt, on m'a mise à l'honneur. Dans les colloques mondiaux, on s'inquiète de mon sort et on n'a pas tort. Pour peu que j'ai du pétrole, de l'or sous mes racines, c'en est fini de moi. Alors sachez me cueillir juste, ne sciez pas la branche sur laquelle votre civilisation est assise, car si vous m'éliminez, c'est vous qui disparaîtrez. Et je suis un modèle de patience. Oui, venez me voir, je vous enseignerai l'art de prendre le temps de ne pas aller vite. Les soirs de vieille lune, je donne mon meilleur bois pour les Stradivarius. Et les jours d'éléments, je suis une harpe qui apprivoise les vents. Allez, rentrez en moi, venez abriter vos rêves. Je cache les amoureux, je fais les gens heureux. Moi qui ne sais ni lire ni écrire, j'attends vos mots, vos paroles. Venez lire mon avenir dans les lignes de mes feuilles. Et moi, je vous donnerai ce qu'il faut pour écrire le vôtre. Et puis je vous signale que le numéro de Terre Sauvage, l'excellent numéro de février consacré aux forêts justement, l'appel de la forêt, vous retrouverez un petit bout comme tous les mois de ce texte que j'ai gratté. Donc l'appel de la forêt au cœur des forêts tropicales, justement la forêt de Sherwood, Brocéliande, des Carpates, des forêts mythiques d'Europe, c'est toujours très très bien fait. 2011, vous le savez, année de la forêt, donc avec nos amis et partenaires de Terre Sauvage. Je vous l'ai dit, donc dans quelques instants ce sera Jean-Marie Pelt avec l'évolution vue par un botaniste. Et Et puis avec Cédric Laboret, eh bien, je vous emmènerai dans le parc naturel régional des Bauges. Ce sera notre reportage autour des prairies fleuries avec cet éleveur. Et puis donc un invité aussi avec nous qui est en direct. Bonjour à vous, Francis Forest.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CIRAD, au Centre international de recherche agronomique pour le développement. Et donc là, on va parler peut-être d'un autre système de culture tourné vers le sud. Qu'est-ce que l'on va dire ?
Oui, on va parler des limites du modèle d'agriculture que l'on a actuellement aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Mmh. On va parler des efforts d'innovation des agriculteurs dans les pays du Sud, dans les pays tropicaux, notamment historiquement depuis le Brésil. Oui. Et on verra que le modèle forestier a encore de beaux jours devant lui parce que les nouveaux modèles d'agriculture vont imiter la forêt.
Et donc, en fait, on a exporté pendant un temps, nous, les gens du Nord, notre modèle vers le Sud. On entend bien à travers vos propos qu'on atteint quand même des limites et que maintenant, c'est le Sud qui va aussi pouvoir nous donner d'autres informations, d'autres éléments et d'autres innovations.
Tout à fait. Et d'ailleurs, les agriculteurs du Sud et du Nord l'ont déjà bien compris depuis longtemps parce que nos collègues agriculteurs français, depuis quelques années, vont faire des petits voyages dans les pays du Sud, aller chercher un peu des innovations. On est bien sur un retour d'ascenseur. Nous avons pendant 30 ans... proposer un modèle d'agriculture industrielle qui a donné ses grands succès, la révolution verte. On a nourri la planète pendant 40 ans, mais les ressources s'épuisent et ce modèle-là, ses limites.
Merci Francis Forest, on vous retrouve dans quelques instants. Ce sera après le groupe Moriarty et puis ce sera Jean-Marie Pelt. Voici Isabella.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Oh,
sortie du bois et de la forêt est très agréable. Donc le groupe Moriarty, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice, et notre premier volet, bah, vous le connaissez, allez on y va. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons ouvrir cet ouvrage qui s'appelle « L'évolution vue par un botaniste ». Parce qu'en fait, cette histoire de l'évolution, elle a souvent été vue par des zoologistes.
Ben écoutez, elle a pratiquement été vue et pensée par des zoologistes, bien que Darwin connaissait aussi très bien le monde des plantes. Il a notamment écrit un livre sur les orchidées, un livre sur les plantes carnivores. Mais par la suite, les débats sur le darwinisme, sur l'évolution, ça a été en gros l'affaire des zoologistes et plus tard l'affaire des généticiens et aussi des paléontologues. Et puis maintenant, des gens de biologie moléculaire. Et curieusement, les botanistes ne se sont pas exprimés sur ce thème.
Alors, qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers cet ouvrage ?
Écoutez, pour moi, c'est quand même 50 ans de réflexion, parce que j'ai été enseigné en botanique par M. Franquet, qui était mon professeur, et qui avait eu cette chance incroyable d'avoir été un des rarissimes élèves de Théard de Chardin. Oui. Donc, il nous a fait un cours évolutionniste, qui m'a passionné. Et puis, quand j'ai fait ma licence après mes études de pharmacie, j'ai eu en fac des sciences un cours de botanique classique. Très bien fait, mais mortellement ennuyeux. Et là, j'ai compris pourquoi il y avait tant de botanistes qui bâillaient au cours de botanique. Alors, je me suis dit, toi, tu as eu une chance d'avoir un cours passionnant. Parce que l'histoire de l'évolution, c'est une histoire absolument passionnante. C'est comment on part du Big Bang et comment on arrive à nous. Et il y a eu beaucoup d'étapes successives. Alors j'ai beaucoup réfléchi sur ce thème. Et puis il m'a semblé que le moment était venu de refaire une synthèse. Et ce livre, L'évolution vue par un botaniste, c'est une synthèse de tout ce que j'ai pensé, écrit, vu, observé pendant mes longues années de vie professionnelle. Alors ce qu'on voit à travers la botanique, on voit d'abord qu'il y a un principe universel dans l'évolution que j'ai baptisé le principe d'associativité. C'est un nom que j'ai inventé. Comment ça se passe ? On part d'éléments très simples. Et les plus simples de tous, ce sont les quarks, qui sont des particules élémentaires, les plus petites possibles et imaginables. On ne peut pas couper en deux parce que ça ne se coupe plus en deux. Et les quarks s'associent par trois pour donner les protons, les neutrons, les électrons. Les protons, les neutrons, les électrons s'associent pour donner les atomes. Et les atomes s'associent pour donner les molécules. Et chaque fois qu'il y a ce mécanisme d'association, ce qu'on obtient par associativité possède des propriétés que les éléments n'ont pas. Et donc c'est Pascal qui a raison quand il a dit « le tout, c'est plus que la somme des parties ». Et puis ça continue. Les petites molécules s'associent pour donner des macromolécules. La plus célèbre de toutes, c'est l'ADN, naturellement, qui est une immense molécule et qui a des propriétés tellement importantes que ces propriétés, eh bien, c'est tout le patrimoine génétique. Après ça, l'ADN va rentrer dans le noyau des cellules ou bien dans le corps cellulaire si ce sont des bactéries. Et les bactéries possèdent des propriétés tout à fait originales que nos molécules dont j'ai parlé tout de suite ne possèdent évidemment pas. Et puis ça continue, et ça continue tout le temps comme ça jusqu'à l'homme qui s'associe à sa femme pour faire un bébé. Oui. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, Denis, c'est que personne ne dit jamais ça. C'est extraordinaire. Moi, j'ai brûlé tous les bouquins possibles. J'en ai eu 25 des bouquins sur l'évolution pour faire celui-là. Cette idée n'existe pas. On dit, il se passe tout d'un coup une mutation. Cette mutation fait apparaître des propriétés nouvelles à un organisme. Une fleur, par exemple, au lieu d'être rose, devient blanche. Oui. Et si cette mutation est favorable, le milieu va la sélectionner par sélection naturelle. C'est absolument vrai. Je ne conteste pas ça, c'est absolument vrai. C'est la racine même du darwinisme. Oui. Mais pour qu'il y ait sélection naturelle, ben, je veux dire, il faut qu'il y ait quelque chose à sélectionner. Et donc, le système d'associativité est productif de changements avec apparition de propriétés nouvelles. Et ça, c'est une idée que j'ai ensuite suivie à travers toute l'histoire des plantes, où on voit ce système fonctionner comme si la nature était vraiment obsédée par le souci de faire du neuf en association avec des éléments qui sont plus anciens, avec des éléments qu'elle a déjà fabriqués précédemment, elle refait des associations et des nouvelles propriétés apparaissent.
Alors, vous êtes un évolutionniste, et ça depuis toujours. Une chose qui est importante, surtout pour les gens qui vous connaissent, vous tordez formidablement le cou au créationnisme.
Oui, alors le créationnisme, c'est l'idée que je trouve très saugrenue de considérer que la Bible, et en particulier le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, est une sorte de livre scientifique.
Pas du tout.
Non, alors c'est pas du tout aller scientifique. Évidemment que le rédacteur de la Genèse qui a écrit son texte il y a 2500 ans et qui s'est largement inspiré de textes plus anciens de la culture mésopotamienne qui remonte à 1000 à 1500 ans avant lui, ne pouvait pas savoir ce qu'on sait aujourd'hui. C'est complètement évident. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire celui-ci? Il a voulu exprimer les mythes de son époque. Oui. Il était de son époque. Et nous, nous sommes de notre époque. Et puis, si on est un peu modeste, il y aura devant nous d'autres époques où on va découvrir encore d'autres choses.
Donc la Bible est porteuse de sens, mais évidemment pas de science.
Absolument. C'est une phrase que j'ai utilisée plusieurs fois. Mais elle est porteuse de sens. Elle nous dit qu'il y a eu une création, qu'il y a Dieu qui a été notre créateur. Elle ne dit pas comment il s'y est pris. Elle parle des finalités. Elle ne parle pas des modalités. Les modalités, c'est comment ça fonctionne. Oui. Eh bien ça, la Bible ne le dit pas parce qu'elle ne pouvait pas le dire. Comment voulez-vous qu'elle sache ça, la Bible?
Qu'est-ce qu'il y a d'inconnu dans le monde des plantes? Puisque donc, à travers ce livre, ce sont donc les plantes qui vont nous guider à travers cette évolution. Qu'est-ce qu'il y a encore de très surprenant?
Ce qui est très mystérieux, ce sont d'abord les phénomènes mimétismes dont nous avons déjà parlé récemment, où tout d'un coup, une plante se met à ressembler à un insecte pour être fécondée par l'insecte femelle, correspondant, ça c'est un mystère quand même. Très mystérieux aussi sont les phénomènes cycliques dont nous aurons l'occasion de reparler, où une plante se miniaturise, se regroupe avec d'autres plantes miniaturisées, forme de nouveaux ensembles, lesquels nouveaux ensembles se reminiaturisent de nouveau, se recombinent avec d'autres ensembles eux-mêmes miniaturisés. Alors c'est des cycles successifs comme ça. C'est très mystérieux parce qu'on ne voit pas comment la sélection naturelle joue là-dedans. Et j'ai été quand même frappé de voir dans plusieurs ouvrages de grands spécialistes du darwinisme que M. Mayer en particulier disait qu'on ne peut pas tout expliquer par la seule sélection naturelle. Et ça, je le crois profondément. Alors d'autres phénomènes interviennent, il y a des lois qu'on ne connaît probablement pas encore, mais que j'ai pistées en ce qui concerne les faits. Je montre dans ce livre des faits, même quand on n'a pas l'explication des lois qui les sous-tendent. Mais ce phénomène, on en reparlera parce que c'est très intéressant, de miniaturisation, et est un phénomène extrêmement curieux.
L'évolution vue par un botaniste et par Jean-Marie Pelt, donc, aux éditions Fayard. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et des questions qui me reviennent, des questions on s'en pose dans l'émission, donc c'est Gariton Roussel qui interprète cette chanson, mais après je vous emmène dans le parc naturel des Bauges avec Cédric Laboret, deuxième volet de cette émission, avec un éleveur.
Des questions me reviennent. Aurais-tu retrouvé les tiennes? Des amours me retiennent. Aurais-tu retrouvé les tiennes? Silencieux sous le vent, allongé, assis sur la touche anodin, sans même être ici, à l'arrêt sous la pluie, Orion nous rétrécit. On dirait que l'envie s'évapore aussi. Des questions me reviennent. Aurais-tu retrouvé les tiennes? Des amours me retiennent. Aurais-tu retrouvé les tiennes? Singulier cheminant, soulagé, précis, à la louche, magicien, peut-être indécis, volontaire, sous la pluie, Orion nous rétrécit. On dirait que l'ennui s'évapore ainsi. questions, des questions me reviennent. Aurais-tu, aurais-tu retrouvé les tiennes? Silencieux sous le vent, allongé, assis, prise au piège, à la renverse aussi, volontaire sous la pluie, on nous rétrécit, on dirait que l'on vit, s'évapore.
Allez, nous abandonnons les cuivres de Gaëtan Roussel et je vous emmène dans le département de la Savoie. Mais on n'est pas loin de la Haute-Savoie, où cela, dans les Bauges.
C'est un métier qu'on fait par passion, quoi. Faut qu'il soit capable de faire vivre son homme. Mais si on n'a pas un minimum la passion de ce qu'on fait, surtout en élevage, il faut vite aller faire autre chose,
quoi. Vous aimez quoi? Vous aimez la bête? Vous aimez les lieux, la prairie, ce coin admirable? Ça se mélange de tout ça, c'est...
Ah ben oui, il y a tout. Il y a déjà ben, les animaux... Il faut aimer les vaches. Je pense que si on ne va pas traire par plaisir, on ne peut pas le faire deux fois par jour, tous les jours de l'année, ce n'est pas possible. Et puis après, il y a tout un territoire qui est là. Moi, je suis né ici et c'est vrai que je reste attaché à ce qui se fait ici, au paysage que j'ai et à la façon dont les gens travaillent. Moi, j'ai été voir ailleurs comment les gens travaillaient. J'ai été labouré avec des charrues et autres, ça ne m'a vraiment jamais plu, quoi. Enfin, je ne me verrais pas faire du maïs avec des vaches que je n'en vois pas pâturer. Même si niveau boulot c'est plus simple, même si niveau rendement c'est plus élevé, c'est pas non plus ce qui me plaît et ce qui me donne envie de travailler.
Allez, venez entrer, valser dans cette lumière du parc naturel régional des Bauges. On va faire danser l'herbe, les vaches, les prairies fleuries et pourquoi pas ce jeune éleveur de Savoie d'une trentaine d'années, Cédric Laboret. Alors on est dans ce très beau massif, vous tracez un triangle avec Annecy au nord, Chambéry au sud-ouest, Albertville au sud-est, avec l'abbaye de Tamier qui est pas loin et... Vous avez les Bauges qui respirent à 1000 mètres d'altitude en moyenne et c'est un très bel exemple d'agriculture de montagne bien jardinée. Et quand on passe à pied ou à vélo, eh bien ça sent les haleines des tables chaudes, le foin, le regain. Et on est donc dans les Bauges pour rencontrer le quotidien de cet éleveur conventionnel qui m'intéressait, hein, en marge du salon parisien où The Big is Beautiful. Là, il n'y a pas de grande usine à ski, mais on a une harmonie, du bien-être. Et puis cette lumière folle qui descend du Revard, du col du Frêne, du Plein Palais, du lait chaud. Ah, du lait chaud, on va en trouver, mais ça ne s'écrit pas exactement pareil. Voilà. Et avec Cédric Laboret, on va commencer avec vous. Donc, avec ce nom-là, c'est-à-dire les Bauges, bah, on semble peut-être partir avec un léger handicap.
La Bauge, c'est l'habitat du sanglier. Donc après, à partir de là, on s'imagine un peu la vision que les gens pouvaient avoir du massif, quoi. C'est vrai que quand on le voit des villes alentours, les Bauges, on voit des grandes falaises blanches, calcaires. Et c'est vrai que ce massif, il est un peu resté peut-être refermé sur lui-même pendant longtemps. Mais maintenant, c'est vrai que tout le monde est fier de dire qu'il vient des Bauges. C'est vrai qu'il y a plus d'une dizaine d'années, c'était pas tout à fait la même chose, quoi. On était... Moi, quand je suis allé à l'école, quand je disais que je venais des Bauges, on me demandait si je pouvais rentrer chez moi l'hiver.
Ah oui, c'est ça. C'était le quart monde, quoi.
Ah, c'était vraiment à part du... On n'était déjà même plus en Savoie, quoi. La Savoie, on n'a jamais été sûr qu'elle soit en France, mais là, les Bauges, on n'était même pas sûr que ce soit en Savoie.
Donc, voilà. Alors, comment on fait pour avoir donné donc, une identité donc, à ce massif et puis tout ce travail que vous avez effectué avec vos copains agriculteurs pour arriver donc, à des produits de qualité?
Les produits de qualité, je pense que c'est un peu une tradition qui s'est maintenue, c'est-à-dire que les gens ici, ils n'ont pas essayé d'aller forcément chercher à imiter ce qui se faisait partout. Donc ils sont restés dans ce qu'ils savaient faire et dans ce qu'ils faisaient le mieux. Ouais. On a gardé un savoir-faire et un lien à ce territoire et à ce terroir qu'on retrouve directement dans nos produits. Si on faisait tous pousser la même herbe, je vois pas comment derrière on pourrait avoir des produits différents partout en France, quoi. Donc vu que nous ici on a de l'herbe différente, on a une façon de la récolter qui est un peu différente et une façon de s'occuper de notre bétail qui est peut-être différente d'autres endroits, bah, ça crée un tout qui fait qu'un produit, eh ben, il a son âme et il a sa différence par rapport aux autres.
Bon, en tout cas, elles ont l'air de bien se porter, là, vos abondances. Comment ça se passe pour le prix du lait pour des gens comme vous? Parce que cette crise-là, vous la connaissez. C'est pas très simple pour vos petits copains donc, dans l'autre région, mais comment on s'en sort?
Ben, nous, ici, ce qui fait la grande différence, c'est qu'on est sur une coopérative en gestion directe, c'est-à-dire c'est comme si des agriculteurs sont groupés. Ils font fabriquer leur fromage ensemble, ils vendent leur fromage ensemble.
D'où les fruitières ou coopératives.
Voilà. D'où c'est la coopérative de l'Écherenne. Et donc, on fait tout notre travail ensemble et après, ben, on se partage le bénéfice qu'il y a, quoi. Ouais. Alors, vu qu'on n'a personne d'autre comme intermédiaire en plus, eh ben, on a forcément un bénéfice de plus que les autres, quoi. Mais on a gardé un tissu de coopérative quand même très dense pour le massif qu'on a, parce qu'il y a 64 communes dans le parc et on a... 7-8 coopératives.
Non, mais ça, c'est le mot qui est fort. Être coopératif, c'est-à-dire travailler ensemble. On ne peut pas être que pour son intérêt personnel, sinon ça ne tient pas.
Bah, de toute façon, je pense que l'agriculture, qu'elle soit française ou dans les Bauges, elle s'est faite sur un esprit de collectivité. On ne peut pas dire que... Même s'il y a toujours quelques exemples qu'on met toujours en avant de fermes de 1000 hectares, de ci, de là, ouais. La majorité des agriculteurs, qu'ils soient Bogeux ou français, ça reste quand même des structures de beaucoup plus petite taille. Et c'est par le collectif que les gens s'en sortiront. On n'a pas de structure, nous, en France, qui nous permette d'aller voir tout seul un industriel et puis de traire les vaches à un côté et puis de voir sortir la brique de l'autre. Je crois qu'il faut rester. Et nous, c'est sûr qu'en Bauge, on n'aura jamais cette capacité-là, donc on ne s'est jamais battu pour ce genre de choses.
Vraiment le souci de la qualité, donc après une AOC. Vous y veillez aussi avec la qualité, j'imagine, des sols et de l'herbe. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui est un peu original ici?
En fait, on a des particularités ici qui font qu'on s'est aperçu qu'en travaillant quasiment qu'avec des prairies naturelles, on va dire plus de 80% de la surface en herbe du massif qui est en prairie naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été retournée, jamais été replantée. Et on s'est aperçu qu'il y avait une énorme biodiversité dans ces prairies, notamment grâce à un travail avec le parc et l'INRA, on s'est aperçu qu'il y avait des parcelles où il y avait plus de 60 espèces de plantes différentes et qu'en fait c'était quasiment de la nature ordinaire, c'est-à-dire qu'on l'avait à très très grande échelle. Et derrière, on a mis en place une MAE.
Alors MAE,
une mesure agro-environnementale, voilà. Prairie fleurie, et en fait il y a quasiment 2000 hectares sur ce massif d'engagés en mesure agro-environnementale.
Alors prairie fleurie, ça signifie que l'on va encore varier les espèces? Qu'est-ce que c'est?
C'est-à-dire, c'est une mesure à obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on dit à l'agriculteur, écoutez, on vous laisse travailler comme vous voulez, par contre, on vous oblige à avoir un résultat. Et ce résultat, on trouve une manière de le quantifier. Ce qui s'est passé, il y a une méthode qui a été faite, c'est-à-dire qu'on traverse la parcelle en diagonale, et dans chacun de ces trois tiers de la parcelle, on doit être capable de trouver plus de 5 espèces de fleurs différentes, qui sont des plantes indicatrices, c'est-à-dire que quand ces plantes sont là, ça veut quand même dire qu'on en a un plus grand nombre derrière. Et donc, on est aidé que si on a ce résultat qui est probant sur l'exploitation.
Il y en a qui nous suivent bien, là ce sont vos deux chiens. Hein. Donc, ouais. J'imagine qu'ils connaissent peut-être mieux les vaches qu'un type avec un magnétophone, mais ça va, hein. Bonne nature, qu'est-ce que c'est?
C'est des border collies.
Ah bah oui.
Là, on a Choupette.
Choupette, oui.
Et puis Dolly, là-bas.
Choupette et Dolly, et bah, qui réplique, évidemment. Mmh. C'est deux filles.
Ouais.
Et oui. Salut ma belle.
Ouais, elle est très joueuse, elle, c'est la plus jeune des deux.
Bon, elle s'occupe des troupeaux.
Oui, oui. Pour aller bouger des animaux ou autre chose, on le fait toujours avec les chiens et on y va tout seul.
Alors le gros avantage, c'est que vous travaillez vraiment pour donc cette coopérative. Vous l'avez dit, sans intermédiaire, ça, vous ne travaillez pas directement pour l'industrie agroalimentaire.
Non, non, nous on maîtrise complètement notre production et le produit quand il sort. Après, la contrepartie, c'est que moi, la coopérative, on la voit de l'exploitation. Elle est à vol d'oiseau, elle est à 500 mètres. Si la tome, elle n'est pas bonne, moi, je le sais dans les deux jours qui suivent, parce qu'on est directement en lien avec les gens qui nous achètent nos produits. Et c'est vrai que ça, c'est un très grand plus, parce que c'est très vivant et que c'est très agréable aussi d'avoir les gens en face de nous. Puis ça nous pousse aussi à chercher l'excellence partout, même dans le fait de produire son lait, être sûr que son lait il soit bon, qu'il soit facilement transformable. Que tout se passe bien, quoi. Et puis, ça nous donne un vrai lien avec les gens qui nous disent « Ben, ce mois-ci, la tome, elle est bonne, ça va mieux. Ah, l'autre coup, elle n'était pas tellement bonne. » Ouais. C'est le côté très agréable de l'histoire.
On se retourne, on a votre bâtiment. Vous avez aussi bien gambergé sur tout ce qui est énergie. Parce que l'agriculteur d'aujourd'hui et de demain, il est évidemment producteur, hein, producteur de matières premières, producteur de biens. Il est aussi aménageur du paysage. Il devient aussi énergéticien. Et en tout cas, il prend en compte tout le problème énergétique.
Ben, je crois que quand on fait un bâtiment à l'heure actuelle, on est obligé de raisonner fortement au niveau économique. Parce que je pense qu'on est un des rares métiers où quand on investit dans un bâtiment, c'est plus d'une année de chiffre d'affaires qu'on engloutit en immobilisation, quoi, si on veut être très financier. Quoi. Oui. Et puis après, on est aussi dans un territoire où ben, je pense qu'on ne peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé déjà avec du bois local, que ce soit en charpente ou en bardage.
Ça va être pour l'isolation. Hein.
Côté esthétique et isolation. Puis parce qu'on est dans un pays de bois quand même, je ne me voyais quand même pas faire un bâtiment métallique ici. Puis fait par des entreprises du coin. Le bois était débardé sur place, scié sur place et travaillé par des artisans locaux aussi.
On a toujours travaillé le bois hein, dans les Bauges. Ouais, on avait commencé autrefois par le charbon de bois, puis après donc avec le bois, on a eu beaucoup d'objets hein, en bois qui ont été créés.
L'argenterie des Bauges qui en fait partie.
Oui, c'est-à-dire, qui était en bois.
Quoi. Qui était en bois, voilà. Puis après, il faut le réfléchir de façon à optimiser chaque surface. Quoi. Moi, par exemple, j'ai un système de récupération d'air chaud. Ouais. Pour sécher mon foin, c'est-à-dire que la chaleur qui vient frapper les fibros, l'air qui circule dessous, je le récupère et je le pousse, je souffle dans mon foin avec un gros ventilateur pour le sécher. J'ai une fosse de récupération d'eau de pluie pour tout ce qui est lavage de la salle de traite et autres. Puis abreuvement de certains animaux. Voilà. Derrière, c'est aussi un état d'esprit de dire tout ce qu'on peut essayer d'optimiser, on le fait. Quoi. Puis je pense qu'un bâtiment pour un exploitant, c'est à peu près 25 ans de sa vie, 30 ans de sa vie quoi, qu'on va travailler dedans. Donc, un bâtiment comme celui-ci, je vais y passer autant de temps que dans ma maison. Quoi, donc.
Oui, non, ça, c'est sûr que vous ne faites pas 35 heures, vous. Hein.
Non, bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont à 35 heures. Hein.
Alors aujourd'hui, Cédric Labouret... Je dirais les craintes pour votre métier et aussi l'avenir et le côté positif.
La plus grosse crainte que j'ai, moi, c'est presque au niveau social pour l'agriculture, c'est-à-dire de ne pas trop déconnecter notre métier d'avec les autres. Plus le temps avance, plus on se sent en décalage avec tout. Parce qu'avant, il y a 80% de la population qui était agricole, puis 20% qui n'y était pas, donc tout le monde se calait sur les 80% d'agricoles. Maintenant, il y a 2 à 3% de population agricole. Après, trouver une façon économique que l'agriculture vive et autres, c'est des choses qui, à mon avis, se règlent, ça. Mais si socialement, on n'arrive pas à intégrer les agriculteurs dans leur société, pour moi, le gros danger, il est là.
Les espoirs.
Les espoirs, c'est qu'à mon avis... J'espère quand même qu'une agriculture, comme je l'ai fait moi, elle est quand même reconnue sur son territoire. Je pense qu'on a quand même un type d'agriculture où on peut marcher la tête haute et pas avoir honte de ce qu'on fait. Et puis aussi, je pense que moi, j'ai un produit qui est avec moi, qui est l'Atome des Bauges, et une coopérative qui me fait vivre. Et j'ai confiance en ça et en ces objectifs qu'on s'est mis pour l'avenir, de dire on va travailler sur ces produits sous signe de qualité, même si quand ces AOC ont été mises en place, ça semblait un peu quelque chose de complètement utopique, mais on s'aperçoit que ces territoires, en ce moment, ils vivent, quoi.
C'est alors vachement bien l'utopie.
Hein ouais, ouais. Après, moi, vous m'auriez dit il y a 10 ans que je mettrais en avant les fleurs que j'ai dans les champs, je vous aurais jamais cru, quoi. Et puis les choses évoluent. Moi, l'autre jour, j'ai eu une classe de mon ancien lycée qui est venue. Ce que j'ai dit au prof qui était présent, c'est qu'il y a 10 ans que je me suis installé, il y a 10 ans que je fais l'inverse de ce qu'il m'a appris à l'école. Et finalement, ça me réussit bien, donc bon.
Quand on vous parle de biodiversité, alors pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Pour moi, la biodiversité, c'est comment, dans un territoire et dans un endroit, tout le monde arrive à vivre. Que ce soit les fleurs, que ce soit les bêtes, que ce soit l'ensemble. Quoi. Et que tout le monde s'y sente à peu près bien. Quoi. Ouais. C'est pour ça que moi, ça m'hérisse les poils sur les bras quand j'entends mettre le mot loup à côté du mot biodiversité. Parce qu'on a une espèce qui est là, qui vient emmerder quand même la plupart des autres. Mmh. Et on a l'impression qu'on fait de la biodiversité avec une espèce. Alors qu'en fait... Si vous prenez des alpages, le mouton, il fait la biodiversité sur l'alpage, mais le loup qui mange le mouton, il ne fera quand même pas la biodiversité. Quoi. Le loup, c'est un prédateur comme l'homme. Ça, pour moi, c'est un contre-exemple complet. Par contre, ouais, pour moi, la prairie fleurie, c'est de la biodiversité. Parce que moi, mon action, elle favorise ça sur mes prés, et que derrière, je suis capable de dire bah, il y a 60 espèces dans ma prairie parce que j'ai un travail qui est comme ça. Et ça, pour moi, c'est de la biodiversité. Et tout le monde en bénéficie, quoi. C'est un peu le problème qu'on a eu, c'est que souvent, la biodiversité, on a une poignée de grosses têtes qui sont venues sur un territoire, qui ont vu une fleur formidable, qui ont dit qu'il faut mettre des barrières autour parce que forcément, ils vont y abîmer. Alors que le paysan qui travaillait ce pré et qui a travaillé ce pré pendant des générations, si la plante, elle est là, c'est bien parce qu'il l'a travaillé comme ça. Et on lui a foutu un coup de pied dans le cul et on l'a mis dehors parce que, justement, on avait l'impression qu'on allait sauver la biodiversité, alors que... Quelque part, comment on entretient ce qui nous entoure, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit le sol, pour faire que ben, ça arrive à nous faire vivre, mais qu'en même temps, on n'abîme pas, quoi, et que ça fera vivre des gens après nous. Moi, si aujourd'hui, je peux me dire ben, mes prairies elles sont biodiverses, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant moi et qui ont déjà amené ce résultat-là. Moi, j'ai fait que le conserver, en fait. Et l'écologie, c'est ça.
Je l'avais dit, on essaye de faire valser les fleurs et donc ces prairies fleuries, donc cet éleveur traditionnel, hein, pas bio, alors qui rajoute pour l'hiver quelques concentrés, mais qui a quand même la matière première qui est dans ses champs, il le sait. Et puis c'est aussi une parole libre que nous souhaitions dans cette émission. Les gens ne peuvent pas être d'accord, mais peu importe, c'est comme ça, dans C'est l'eau de mon amour. Alors peut-être réaction avec vous aussi, Francis Forest, on va passer à notre sujet avec les pays du Sud, mais de ce que vous avez entendu, parce que ça rejoint aussi quand même un peu vos préoccupations.
Eh bien, notre agriculteur a parlé de prairies naturelles.
Oui.
Et en même temps, il a parlé de coopératives, d'organisations, de valeurs ajoutées. Il a dit que, pour finir, son activité était très viable.
Oui.
Il avait l'air heureux. Et ça, c'est très important parce que c'est nous qui sommes en charge de recherche au Sud, notamment dans les pays du Sud, où la malnutrition, l'alimentation, la pauvreté fait partie du quotidien. On retrouve les mêmes valeurs. C'est bien la biodiversité qui n'est, mais il ne faut pas qu'elle exclue l'homme. L'homme fait partie de la biodiversité et c'est donc une question, je pense, de vision poétique et en même temps positive. On peut gérer la biodiversité, on peut en vivre. Donc moi, je retiens cette image à la fois d'un professionnel et en même temps de quelqu'un qui vit.
On vous retrouve dans quelques instants. Et puis donc, coup de chapeau aussi au parc naturel des Bauges et des parcs naturels qui s'occupent de ces prairies fleuries parce qu'ils sont aussi donc, en impulsion par rapport à ces nouvelles pratiques. On se retrouve avec Francis Forest et voici tout de suite... Ah bon, au cinéma club. Voilà, suite sur France Inter de cette émission avec une dominante, vous l'avez compris, agricole. Et donc, nous sommes toujours en compagnie de Francis Forest, qui travaille donc au CIRAD aujourd'hui, donc avec en direction des pays du Sud. Alors peut-être, tout début, quel est un peu le constat que l'on peut faire aujourd'hui, Francis Forest, sur ces problèmes qui sont des problèmes maintenant mondiaux que nous connaissons. On profite de ce salon de l'agriculture pour en parler. Mais est-ce que la crise, on va dire, est une opportunité?
Oui, les agriculteurs des pays du Sud, comme vous le savez, vivent dans des conditions de très grand dénuement, avec des niveaux de vie, des infrastructures, des conditions très pénibles. Elle se retrouve donc devant la situation que faire quand on a rien. On est un peu à l'opposé de nos situations européennes où on vit à partir de moyens, d'infrastructures, de facilités, de services, et on se pose des questions, on a des états d'âme. Mm-hmm. Là-bas, les états d'âme n'existent pas, c'est la survie. Et je pense que la situation actuelle est réellement une opportunité, parce que nos modèles du Nord se confrontent maintenant à la pénurie des ressources. On a plus assez d'eau, on n'a plus assez d'engrais, on n'a plus assez d'énergie, donc il faut inventer autre chose. Notre position au CIRAD, c'est dire, mais regardons la nature, regardons les écosystèmes et trouvons des solutions génériques, valables pour tout le monde. Et l'idée prévaut bien, à savoir de reconsidérer la nature, de reconsidérer le modèle de raisonnement, en gros, revitaliser l'approche agronomique pour mieux gérer les ressources. Et l'idée qui prévaut et qui est en cours de développement, c'est de regarder l'écosystème forestier.
Et aujourd'hui, dans le Nord, là je reviens sur le Nord et après on repartira sur le Sud, est-ce que le frein des subventions, parce qu'il y a moins de subventions, on le sait avec la PAC, donc des subventions de l'Europe, est-ce que ce sera aussi un facteur, on va dire, positif, c'est pas facile de dire ça hein, quand on est agriculteur et qu'on entend ça, mais de changement d'attitude ou non? Ou est-ce que ça va être encore une concentration supérieure, puisqu'il y a énormément, il y a des milliers d'exploitations qui dégagent malheureusement tous les ans?
Et là, vous posez une question de fond qui oppose d'ailleurs les écoles économistes au niveau mondial, hein, entre les écoles européennes, américaines, le débat de l'OMC, faut-il subventionner, faut-il taxer, tout s'affronte, il y a le courant, il y a le contre-courant. On ne rentrera pas dans ces débats d'économistes. Il y aura, je pense, dans les mois qui viennent à Paris, des conférences à ce sujet-là, parce que c'est une vraie question. Non, la vraie question, elle est dans la tête des gens, devant le mur, lorsqu'on est confronté, c'est la théorie. Je prendrai l'image de l'enfant qui tombe dans un puits, il est tout seul. Il ne remontera que s'il se prend lui-même ses jambes et ses bras et essaiera de revenir à la lumière. On est un peu dans cette situation.
Enfin, si on passe à côté et lui balancer une corde, c'est bien aussi. Quand même, donc.
Alors maintenant, le rôle de l'État est important. On est dans les agriculteurs, ça a été dit tout à l'heure. Hein. Cet agriculteur dans les Bourges est un gardien de l'espace. Il est en train de préserver l'espace, mm-hmm. Il est en train de son territoire, il est en train de le maintenir beau, accessible, reposant.
Tout en ayant une production qui est viable.
En étant productif. Donc la question que vous posez et qui fait partie des grands débats aussi et sur lesquels notamment le CIRAD travaille, c'est la question du paiement des services à l'environnement. L'avenir de l'agriculture sera d'être productive, il faut nourrir 7 milliards de personnes, d'être performant, de faire de la qualité, et en même temps donc de préserver ses bases de ressources, qui ne sont pas forcément renouvelables, notamment par rapport à la demande. Et donc la vraie question qui est posée et qui fait débat, c'est comment l'Europe, qui doit bouger sur cette affaire-là, doit s'organiser pour payer justement, d'une manière juste, les services rendus à l'environnement et à la société par les agriculteurs de demain.
Et comment nourrir bientôt 7 milliards d'individus sur Terre, et on va dire 9 à peu près, tous les démographes sont d'accord, autour de 2050, en sachant qu'aujourd'hui, on a des traders qui jouent sur des silos et qui ne jouent plus en bourse. Il y a de la spéculation quand même qui est dans tous les sens à ce niveau-là. Et alors je ne dis pas que ce n'est que ça la cause, hein, ce n'est pas ça, mais on en est là aujourd'hui, sur les matières premières, c'est le nouvel Eldorado de la finance.
Alors, cette question, le CIRAD y travaille maintenant depuis une quinzaine d'années, dans le cadre de son mandat international. Nous travaillons notamment avec les grands pays émergents, et dans ce domaine-là de l'agriculture durable, on ne peut pas ne pas citer le Brésil. Et la réponse est en cours d'émergence, 25 millions d'hectares au Brésil, où les gens ont imité la forêt, c'est-à-dire qu'on ne touche plus au sol, on ne le perturbe plus, on ne le laboure plus, on ne le blesse plus. comme une forêt. Et on maintient la production d'une litière, d'une matière organique, à l'image de la forêt. Quand vous baladez, vous marchez sur des feuilles, cette litière sert de protection contre l'érosion, de protection thermique. Elle garde, elle conserve les nutriments et elle sert un peu aussi de support à l'activité biologique. Enfin, elle a plein de vertus. En dehors, en général aussi, de sentir bon. Et donc, cette agriculture sur mulch, qui se propage actuellement dans le monde, est une très bonne maladie, parce que c'est une grande innovation. Ça consiste donc à développer des systèmes de culture en semi-direct sur des couverts végétaux. On a supprimé la charrue, et le semoir est une sorte de machine à coudre. Imaginez la planète, un grand terrain de golf, bien vert, oui, avec des machines à coudre qui sèment du soja, du tournesol, des fétuques pour nos animaux. Oui. Donc on est sur un modèle agroforestier dont on peut penser qu'il est une des solutions durables, parce que sans entrer dans le détail, il est productif tout en étant économe.
Donc là, on est dans ce qu'on appelle l'agroforesterie, qu'on utilise très très peu aujourd'hui en France, mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça fonctionne aussi donc, ailleurs, voir après ce qui pourrait être transposable d'ailleurs ou non. Donc les principes de base, c'est ne plus perturber le sol, ça on l'entend bien, semer directement à travers un couvert végétal permanent, et puis rotation des cultures.
Oui, alors là, on retrouve, l'agronomie ne s'invente pas, hein, c'est les grandes bases de l'agronomie. Le grand principe, c'est de conserver, de protéger les sols. Sur la planète, pour nourrir 9 milliards de personnes, il faudra régénérer les sols. Chaque année, des milliers d'hectares disparaissent sous l'effet de l'érosion, mais aussi sous l'effet de l'urbanisation.
Bien sûr.
On a des continents comme l'Indonésie, par exemple, où ce sont les parkings de supermarchés qui remplacent des rizières, où on faisait 3 récoltes par an. Et ça va être dur à remplacer. Donc, il faut protéger ces sols. C'est un capital de la planète. Et cette agriculture que nous proposons est bien avant tout pour protéger les sols et les maintenir dans une activité biologique qui leur permettra d'être productifs. Et donc là, on est devant une synthèse entre une agronomie de polyculture où on combine la biodiversité des cultures, une protection des sols avec un objectif de production. Ce qui est très important de dire, c'est que le message est qu'il faut produire tout en protégeant et en préservant les ressources. Cette notion de production est importante.
Ce que font d'ailleurs aussi les Chinois, je sais que vous allez partir bientôt et sans forcément le développer, cette agriculture de conservation est en train de s'opérer assez vite en Chine. D'abord, ils n'ont pas le choix, mais bon.
Tout à fait.
Parce que sinon, ils achètent des. Ce qu'ils font d'ailleurs, ils achètent des terres ailleurs, un peu partout avec des bails amphithéotiques.
Vous savez, ces grands pays ont des responsabilités énormes au point de vue de la préservation de leur équilibre alimentaire, vu le développement de la démographie. Effectivement, nos collègues avec qui nous travaillons, notamment à Shanghai, sont sur le développement d'un grand plan d'action pour développer les techniques de semi-direct sur couverture végétale en Chine, pour vous dire que la Chine avance aussi de ce côté-là.
Entre, on va dire, là on va pas faire manichéisme, mais entre le tout chimico-génétique et le tout écologique, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Tout va dépendre aussi des contextes, des politiques, du juridique, de l'économie locale, mais où en sont vos réflexions aussi, Rad?
Alors là, c'est une... Il y a une dimension d'équilibre qui apparaît bien. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de variété de plantes miracles sous la table actuellement qui va nourrir comme ça 9-10 milliards de personnes avec une plante qu'on sèmerait le lundi et qu'on récolterait le mardi soir. Donc le tout génétique est exclu. Il n'y a pas non plus de solution idyllique du type agriculture périurbaine, biologique, sympathique, avec des tomates dites de qualité qui arriveront à des prix accessibles pour la majorité de l'humanité. Donc il faut bien que l'on trouve un équilibre. Et la réflexion qui prévaut actuellement au niveau du CIRAD et de la recherche, c'est ce qu'on appelle l'intensification écologique. Il faut améliorer les conditions du milieu par tous les moyens.
C'est intéressant, c'est pas un oxymore, intensification écologique.
Absolument pas. Le schéma qui prévaut actuellement, vu l'acquisition des connaissances dans le domaine de la biotechnologie, des connaissances du comportement des plantes, au point de vue génétique, on sait comment elles fonctionnent. Le schéma vertueux, si on peut donner une image assez simple. Développons des systèmes de culture type les SCV, le semi-direct sur couverture végétale. Ces systèmes vont améliorer le micro-environnement de la plante. Une fois ce micro-environnement de la plante, c'est-à-dire physique, chimique, biologique, sera acquis, sélectionnons, en utilisant les moyens les plus modernes de la biotechnologie, les génomes, les espèces, les plantes qui feront la meilleure usage de cette amélioration du milieu. Donc on est bien sur un système réitératif. Préservons le milieu, le micro-environnement de la plante, à partir de cette amélioration, proposons de l'amélioration variétale, de la bonne génétique, pour trouver la meilleure valorisation en termes de qualité des produits, en termes de plantes médicaments. On peut imaginer les usages de ces plantes. Donc la combinaison entre l'agronomie et la génétique est effectivement la grande chance de l'humanité demain.
Là vous nous dites que nous présenter le rôle clé des agriculteurs qui tirent d'innovation aujourd'hui. Et si vous devez vous adresser, je veux dire, à des entreprises, à des industriels aussi, à des gens qui fabriquent du gros matériel agricole, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Bon, je sais que j'ai employé le gros mot d'arrêter de labourer. Je sais qu'en France, depuis
Henri IV, depuis celui, labourage et pâturage.
C'est une affaire qui est bien ancrée dans nos campagnes. Mais je veux les rassurer, un semoir de semis direct, tel que nos collègues brésiliens fabriquent, maintenant les sociétés européennes s'y mettent, un semoir en semis direct est une technologie de très haute valeur ajoutée. Donc c'est une question d'arrêter de fabriquer des charrues, peut-être de fabriquer des semoirs. Mais je vais plus loin. Imaginons la planète qui se lance dans le système de semis direct en couvert végétal pour les 20, 30 ans, 40 ans qui viennent. C'est tout à fait possible si on raisonne sur le carbone. Il faudra imaginer comment enfouir ce carbone en profondeur. Et là, à ce niveau-là, je peux dire aux fabricants de charrues, ne vous inquiétez pas, inventer la charrue qui enfourit la matière organique et le carbone actuellement séquestré par ce système de semis direct et qu'il ne faut pas laisser repartir dans l'atmosphère, bien entendu. Donc, trouvez-nous une belle machine qui enfouit en profondeur le carbone.
Il y aura toujours du business à faire aussi là-dessus, et là, l'innovation.
Tout à fait. Ça serait... On peut rêver à une agriculture qui stocke du carbone. Ça le fait. Nous sommes entre une tonne et deux tonnes à l'hectare de carbone séquestré sur ces systèmes sans labour, avec rotation sur couverture végétale. Mais il y a des limites à ce système. Le sol ne peut pas stocker tout le carbone. Il faudra bien inventer une machine qui envoie le carbone en profondeur. Voilà un bel exemple de recherche.
Déjà, vous nous tracez, mais très rapidement, des points qui nous donnent aussi envie d'avancer. Quelles sont les innovations qui vous semblent très, très bien dans le sud aujourd'hui et de nouveau, qu'on va peut-être pouvoir utiliser chez nous?
C'est-à-dire, il va falloir inventer les nouveaux produits de l'agriculture, de cette agriculture agroécologique. Il faut mettre au point les nouveaux intrants qui vont assister les plantes dans leur combat contre les bio-agresseurs, par exemple. Mm-hmm. On appelle ça des illiciteurs. Il y a des tas de nouveaux produits de qualité biologique qui peuvent être utilisés pour stimuler la nutrition des plantes. Il y a tout un univers de produits de nature agrobiologique qu'il faut imaginer dans nos laboratoires industriels. Et là, c'est un appel aux grands industriels de l'agrochimie. Autant ils ont réussi la révolution de Liebig, on a nourri la planète pendant 50 ans avec de l'azote, du phosphore et du potasse. Créons les nouveaux produits du futur.
Merci à vous, Francis Forest, pour ces différents mots. Je vous signale que mardi 23, Ushuaïa Télé présente un formidable documentaire qui s'appelle L'appel des pôles de Christine Oberdorf et de Vincent Puybarret. C'est très intéressant sur l'avenir de ces territoires en pleine mutation climatique. Merci à Sandrine Laurent, Renan Mahé, Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestaraï, Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end. Les sites nourris par Anne Gouzon et puis l'actualité de l'environnement en temps réel. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Jean-Marie Pelt. Je vous reportage sur Belle-Île, oui, dans le Morbihan. Et puis une actualité avec Frédéric Dan et possibilité pour vous de réécouter l'émission. Et puis là, tu lis mon petit loup, c'est demain 19h54.